D'abord, je voudrais dire que je suis très, très content d'être dans cette institution du Centre Alain Savary, parce que je l'ai connu à un moment où c'était le Centre Alain Savary était non seulement squelettique, mais moribond et voué à une mort définitive. Or, il n'est pas mort, il vit bien, il y a des responsables sympathiques et efficace qui le font tourner, et je suis vraiment très très content de revenir dans cette maison dans ces conditions là. Voilà. Alors, cela dit, je suis d'autant plus content de venir ici que la recherche pédagogique me semble absolument fondamentale pour tout ce qui concerne l'éducation prioritaire. Et les gens qui, comme moi, ont enseigné entre 1960 et le début du nouveau millénaire sont un peu comme des gens du XVIIe siècle, vous voyez, qui ont commencé du XVIIIe siècle, qui sont passés d'une certaine obscurité, même si elle n'était pas totale, à quelque chose de tout à fait nouveau. Je crois que l'irruption de la recherche pédagogique, bon, qui existait un petit peu depuis très longtemps, depuis Jules Ferry, et puis même depuis avant, on voit les statues là qui sont indiquées, qui sont placées dans le couloir. Il n'empêche que durant les 40 ans où j'ai enseigné, j'ai vu des lueurs apparaître. Et ça, je voudrais témoigner dans cette maison de cette expérience, qu'il était extrêmement difficile, pénible, angoissant pour les enseignants, enfin pour ceux qui se trouvaient avec des populations très défavorisées. Il était très très angoissant de ne pas comprendre ce qui se passait. Bon, quand on travaillait en équipe, on se défonçait, on était prêt à aller se former pendant les vacances gratos, etc., etc. On faisait des projets pédagogiques. Enfin, bon, et puis le résultat était nul, était absolument nul. Et ça, c'était extrêmement pénible. Or, petit à petit, dans les années où j'ai enseigné, petit à petit sont apparus des institutions, des personnes, des laboratoires qui, petit à petit, ont commencé à déblayer un peu ce qui se passait. Voilà, et je crois que... Enfin, j'avais essayé dans le dernier numéro des cahiers pédagogiques qui traitaient de l'éducation prioritaire de le dire. Je crois que c'est bien que, oralement, dans cette maison, ici... quelqu'un le dise, parce que on ne met pas en valeur la recherche pédagogique. Bon, Antoine Pro a écrit Éloge des pédagogues. Moi, si j'étais écrivain, j'aurais aimé écrire Éloge des chercheurs en pédagogie, parce que non seulement ils ont changé les choses pour les élèves qui sont dans nos classes, mais aussi ils ont changé la condition enseignante des enseignants qui s'occupent d'eux. Voilà, alors c'est un petit peu en préalable, c'est pas tellement dans le sujet que vous m'avez demandé d'intervenir, sur lequel vous m'avez demandé d'intervenir, mais je profite de cette circonstance pour le dire. Alors, moi, j'ai donc travaillé de 60 à 2000 dans ce qu'on appelle maintenant des ZEP, et je suis donc retraité. Alors, on m'a donné l'étiquette OZP, Observatoire des zones prioritaires, ce que j'apprécie tout à fait. Cela dit, je ne représente pas l'OZP ici. Hein. Je suis toujours membre du conseil d'administration, mais je ne suis pas mandaté par l'OZP. Voilà, je ne dirai rien de contraire à ce que pense l'OZP. Je pense, c'est pas pour me dédouaner, c'est simplement pour préciser les choses. Voilà. Alors, j'interviens ce matin comme témoin d'abord et ensuite comme observateur. Je ne suis ni chercheur en pédagogie ni historien de l'éducation. Comme témoin, je rappellerai le contexte du démarrage de l'éducation prioritaire en France. Et puis, comme observateur, je me permettrai de faire deux observations sur l'actualité en rapport avec ce contexte de démarrage de l'éducation prioritaire. Alors, au début des années 60, la seule chose qui comptait en France pour les organisations pédagogiques, syndicales, politiques, c'était l'application du plan Langevin-Wallon. C'était l'objectif ultime de tout le monde, et hors de ça, il était quasiment impossible de parler d'autre chose. Alors, le résultat, comme en plus il y avait une pénurie d'enseignants extrêmement grave, ce qui amenait à prendre n'importe qui dès lors qu'il avait le bac. Enfin, moi, je faisais partie de ces gens-là qui le 3 juillet, après les résultats du bac, se retrouvaient, on vous offrait un fauteuil. Hein, bon. Vous voulez bien être enseignant, asseyez-vous, monsieur. Bon, c'était un petit peu ahurissant quand on a su ce qui se passait ensuite. Donc, on prenait n'importe qui sans formation et on le mettait immédiatement dans une classe. Alors, sachant qu'il existait un petit nombre d'endroits où l'éducation nationale était complètement défaillante, et complètement irresponsable, et sans du tout le reconnaître, les suppléants éventuels qui étaient recrutés comme ça à 18 ans et sans formation se retrouvaient évidemment en priorité dans ces endroits-là. On avait donc une distorsion entre, d'une part, un discours tout à fait extraordinaire de l'application du plan Langevin-Wallon, auquel toutes les forces syndicales, politiques, culturelles, pédagogiques s'accrochaient, et puis d'autre part une réalité dans certains coins qui était tout à fait abominable. Mais il fallait pas en parler. Alors, c'est dans ces conditions qu'avec quelques collègues, on s'est retrouvés dans une cité d'urgence, dans une école qui était au milieu d'une cité d'urgence et qui n'accueillait évidemment que les enfants de cette cité d'urgence. C'était dans un tissu industriel où il n'y avait aucune habitation, aucun magasin, loin de tout. Et on s'est retrouvé un petit groupe à travailler dans une école de ce genre. Alors, pour vous donner une idée de l'enfermement de ces cités d'urgence et ensuite l'enfermement des cités de transit qui ont existé un peu plus après, je vous donne une anecdote. On avait organisé une sortie scolaire avec des enfants de 6 à 8 ans. C'était dans la banlieue de Paris, qui prévoyait d'aller à pied jusqu'à une bouche de métro pour ensuite prendre le métro pour aller à Paris. Et tous les enfants savaient très bien que le métro, c'était en dessous de la terre. Bon, ils étaient très contents d'aller dans le métro et tout. Mais quand on est arrivé devant la bouche de métro, devant la mairie de Saint-Ouen, il y en a plusieurs qui ont absolument refusé de descendre l'escalier. Alors, on s'est demandé pourquoi, et la raison, c'est qu'ils n'avaient jamais emprunté d'escalier. Alors, ça nous a... Alors, même si nous, depuis plusieurs mois, on travaillait dans cette école, et on essayait de s'adapter aux réalités qu'avaient vécues ces enfants, on n'avait jamais pris conscience, nous-mêmes, que les maisons de la cité étant de plein pied, l'école étant de plein pied, et... on ne sortait pas de la cité, ça on le savait, eh bien ces enfants, pourtant à l'école élémentaire, n'avaient jamais pris d'escalier. Et donc pour eux, aller sous terre, c'était évidemment descendre une pente, mais alors de là, avoir cette espèce de système où on allait s'en mêler les pieds et se casser la figure, c'était quelque chose de tout à fait impressionnant. Alors, c'est une anecdote hein, parmi cent autres que je pourrais donner, mais c'est pour vous montrer le caractère d'enfermement de ces cités. Caractère qu'on a constaté ensuite avec les cités de transit. Alors, pour ceux qui n'ont pas d'informations sur les cités d'urgence, les cités de transit, les cités d'urgence avaient été construites en 54. À partir de 1954, pour ceux qu'on appelait les sans-logis, les cités de transit ont été construites à partir de 1962 pour résorber les bidonvilles. Et ce n'est qu'en 1982, en octobre 82, qu'un plan national de résorption des cités de transit a été mis en place. Donc c'est des affaires dont on ne parle absolument plus. On parle un petit peu des bidonvilles de temps en temps, mais on ne parle plus du tout de ces cités. Mais c'est des dizaines de milliers d'enfants qui ont vécu leur petite enfance et leur enfance dans de telles cités. Voilà, on voit d'ailleurs, si on regarde la presse, on voit que cette idée de cité de transit, cité d'urgence, revient régulièrement. Au mois de décembre, c'est revenu dans la presse, hein, étant donné qu'il y a des bidonvilles qui sont à nouveau en construction, de ci, de là. En France, on a vu ipso facto des revendications de gens très très bien intentionnés, hein, je ne mets pas en cause leur bonne volonté, imaginer qu'il faudrait construire un peu n'importe où, parce que c'est pour pas longtemps, c'est pour 3 mois, c'est pour 6 mois, des cités d'urgence. Donc ces histoires, même si elles sont réglées en ce moment en France, c'est des histoires qu'il ne nous faut pas oublier parce que ça peut ressurgir régulièrement. Voilà. Alors, on était donc dans cette école et en 1964, la cité enfin a été, au bout de 10 ans, alors que c'était pour quelques mois que les gens étaient là, au bout de 10 ans, la cité a été détruite et donc l'école aussi. Alors, le groupe d'enseignants que nous étions, maternelle et élémentaire, a décidé à ce moment-là d'en faire le bilan. Et nous avons fait le bilan de 10 années de scolarité. Et le bilan était absolument abominable, puisque un quart des élèves à 14 ans étaient sortis de cette école sans savoir lire. Jamais personne n'avait eu le certificat d'études. On pouvait considérer qu'un quart des élèves avait eu une scolarité plus ou moins normale. Alors, on a publié ces résultats dans Liaison Sociale, qui est une revue qui existe toujours d'ailleurs. Et immédiatement, ça a été un scandale. Et on s'est fait engueuler par la hiérarchie, par nos syndicats, par les partis politiques auxquels on appartenait, par les associations pédagogiques auxquelles on adhérait, parce que c'était des choses qu'il ne fallait pas dire. C'était être traître à l'éducation nationale et aux efforts que tout le monde faisait dans le sens du plan Langevin-Wallon. Voilà, donc on est resté en groupe, on a pu se faire nommer en groupe dans une école qui ouvrait, puisque à cette époque-là c'était des choses possibles, et on a établi à ce moment-là un projet pédagogique pour investir une école du même genre que celle que nous venions de quitter. Et dans la même commune, se sont ouverts à ce moment-là des cités de transit. Il fallait construire la préfecture des Hauts-de-Seine. Sur le terrain de la préfecture, de la future préfecture, il y avait un immense bidonville. Il fallait en quelques mois débarrasser le terrain. Donc quelques bureaucrates a décidé comme ça 2 colonnes de famille. Celle où il n'y avait pas trop d'enfants et où il y avait des revenus pas trop mauvais, on les mettait en HLM. Celles qui n'avaient pas trop de sous et qui avaient beaucoup d'enfants, on les mettait en cité de transit, à nouveau dans des endroits inconstructibles officiellement et puis hors de tout tissu urbain. Et en disant aux gens, vous inquiétez pas, c'est pour 3 mois, c'est pour 6 mois, ils y sont restés 20 ans. Voilà. Alors, l'administration s'est donc décidé à construire des écoles dans ces cités de transit. On a mené un combat pour que les cités ne soient pas construites, ensuite pour que les écoles ne soient pas construites dans les cités. Les deux combats, bien que unitaires et tout à fait sérieux, ont échoué, et donc des écoles existaient. Alors, il y avait 18 classes et un poste de direction à pourvoir, aucun candidat. Donc, on a négocié avec l'administration en disant, on a un projet pédagogique, on veut bien investir, on était 6 titulaires. Alors, pour l'inspection académique, c'était 6 titulaires d'un coup, c'était tout à fait extraordinaire pour une école comme ça. Donc, on nous a dit, mais oui, venez. Et puis, une fois que les procès-verbaux d'installation étaient signés, on nous a dit « Salut, débrouillez-vous, votre projet, on ne l'a même pas lu ». Ça nous a été dit comme ça. Et de toute façon, il n'y aura pas de situation particulière maintenant que vous êtes là. C'est-à-dire que c'était comme les familles. Hein, une fois qu'elles étaient là, elles étaient là et puis bouclées. Nous, pareil. Alors, heureusement, on a pu mener une action. On a eu le soutien décisif du journal Le Monde et on a pu mettre en place notre projet. Alors, voilà ce que nous voulions. Il y avait 5 points. Le premier, c'était de mener une recherche pédagogique. Il fallait qu'on comprenne un peu mieux ce qui se passait parce que c'était obscur, c'était incompréhensible hein, ce qu'on avait vécu et ce qu'on avait vu dans d'autres écoles pendant l'année intermédiaire entre l'école de la cité d'urgence et l'école de la cité de transit. On était allé à Toulouse, à Caen, à Nantes, dans différents coins de France, pour voir d'autres écoles de ce genre dans d'autres cités, et on avait constaté exactement la même chose. Donc il fallait qu'on avance sur cette question. Premier point, recherche pédagogique. Deuxième point, les effectifs. On voulait moitié moins d'effectifs. Alors comme à ce moment-là, les effectifs, c'était entre 30 et 40, on voulait entre 15 et 20 élèves par classe. On voulait que les enseignants soient formés, qu'il n'y ait plus de personnes qui arrivent, enfin qui soient en fonction dans l'école sans une année de formation. On voulait qu'il y ait un conseil des maîtres hebdomadaire payé. Alors ça, c'était une formule pour que le travail en équipe soit institutionnalisé. Et enfin, on voulait qu'il y ait un système de recyclage qui soient installés, c'est-à-dire que, grosso modo, la moitié des enfants vivant dans la cité soient scolarisés dans d'autres écoles. Alors ça, ça a été techniquement ce qui a été le plus dur à obtenir. Et on a obtenu donc que 12 écoles sur 4 communes alentour reçoivent à peu près la moitié des élèves de la cité. Alors évidemment, le partage entre élèves recyclés et élèves que nous gardions dans la cité était fait sur les facilités de scolarisation. Ceux qui étaient les meilleurs élèves, à la fois sur le plan des résultats scolaires et de l'attitude générale vis-à-vis de l'institution scolaire. Alors, les parents d'élèves, comme les enseignants, on était tous partagés. C'était très amusant, les commissions de recyclage qu'on avait tous les ans, parce qu'on était tous à se dire, il faut envoyer le maximum d'élèves à l'extérieur pour qu'ils sortent de là, à la limite 100% des élèves. C'est ce que tout le monde avait envie de faire. Et d'un autre côté, on avait une espèce d'envie d'en garder le maximum, puisqu'ils avaient des conditions de travail qui étaient bien meilleures qu'ailleurs, et puis ils n'étaient pas obligés de prendre l'autocar le matin, et ils pouvaient se lever plus tard. On connaissait les enseignants, les familles. J'avais mesuré avec mes élèves la distance qui existait entre la porte de la classe et la porte de la maison de celui qui habitait le plus loin, c'était 170 mètres. voyez, donc il y avait une espèce de communauté qui s'était installée entre les enseignants, les parents d'élèves. En plus, on avait mené 3 semaines de grève ensemble, puisque les parents étaient cohérents avec cette grève, évidemment. Sans ça, ça aurait pas pu avoir lieu. Et donc on avait à la fois envie de faire sortir tous les enfants par le recyclage et à la fois envie de les garder tous, puisque les conditions étaient plus faciles. Voilà. Alors, très rapidement, il a fallu, et c'est là où ça devient intéressant pour notre intervention aujourd'hui, je pense, très rapidement, il a fallu trouver une assise réglementaire pour maintenir ces avantages. Parce qu'un inspecteur d'académie peut décider comme ça, rapidement, provisoirement, de donner des moyens supplémentaires, des conditions de travail particulières, établir un plan de formation et tout. Ça peut se faire comme ça, bon, en dehors des règlements, mais ça ne tient pas. Donc il a fallu qu'on s'appuie sur une base réglementaire. Alors, on s'est appuyé à ce moment-là sur quelque chose qui va vous sembler curieux, c'est que en France, vous le savez, depuis 1905, il est reconnu qu'une partie des élèves ait des conditions privilégiées d'éducation. Depuis 1905, on sait officiellement, on le savait avant, mais enfin, ça a pris administrativement une reconnaissance que des élèves ont besoin d'une scolarité particulière pour tirer profit de l'école, de la scolarisation. Alors, c'était les sourds, les aveugles et les déficients intellectuels en 1905. En 1937, ça a été les handicapés moteurs. Bon, et on a eu comme ça différentes catégories, jusqu'en 1965, où l'éducation nationale a décidé de créer une nouvelle catégorie qui s'appelait les handicapés sociaux. Alors, pourquoi l'éducation nationale a-t-elle créé cette catégorie d'enfants? C'est parce que les directeurs d'internat qui recevaient des enfants tuberculeux ou des enfants orphelins de guerre avaient petit à petit vu leurs effectifs fondre. Les orphelins, en 1960, ça devenait rare. Commençait à être un peu vieux. Et puis les tuberculeux, heureusement, commençaient aussi à être rares. Les travaux sanitaires en France commençaient à être efficaces et il y avait de moins en moins d'enfants tuberculeux. Mais les places dans les internats restaient ouvertes. Et petit à petit, puisque ça s'est fait progressivement, petit à petit, on a envoyé dans ces possibilités de prise en internat des enfants dits cas sociaux. Or, les enseignants, petit à petit, se sont retrouvés avec des élèves beaucoup plus difficiles à scolariser que les enfants orphelins ou les enfants tuberculeux, qui étaient, somme toute, comme tous les autres. Et le résultat, c'est qu'en 1965, les enseignants et les directeurs d'internats qui étaient devenus de fait des internats pour cas sociaux, ont demandé à l'éducation nationale de bénéficier des conditions de ce qu'on appelait l'enfance inadaptée, qui regroupait toutes les sortes de handicaps. Et pour répondre à cette demande, l'éducation nationale a créé la catégorie handicapés sociaux. Alors, comment étaient définis les enfants handicapés sociaux? Ils étaient définis ainsi, circulaire de décembre 65. Les enfants qui ne bénéficiaient pas des meilleures conditions d'éducation. Point. Donc on peut mettre 100% des enfants de France qui bénéficient des meilleures conditions d'éducation. Bon, difficile à répondre. En plus, il n'y avait pas d'échelle hein, pour les enfants sourds, aveugles ou déficients intellectuels. Il y avait des échelles de mesure qui permettaient de dire s'ils étaient au-dessus ou en dessous du seuil à partir duquel on estimait qu'ils étaient handicapés ou pas. Bon, donc on s'est appuyé sur cette circulaire qui ne valait rien scientifiquement pour obtenir les avantages que nous souhaitions pour nos écoles. Cela dit, on savait très bien que nos élèves n'étaient pas handicapés, ni déficients. C'était une astuce, si vous voulez, administrative, mais c'était quand même assez immoral, même si les élèves ne le savaient pas, les parents non plus. C'était une école ordinaire, il y avait CP, CE1, CE2. Bon, à l'inspection académique, c'était une école pour handicapés sociaux. Dans la réalité, c'était une école comme les autres. Sur nos feuilles de paye, nous, enseignants, on avait instituteur HS. Bon, c'était handicapés sociaux, ça se disait HS pour aller plus vite. Voilà, c'était quand même révélateur. Alors, il fallait que nous trouvions un autre appui réglementaire. On ne pouvait pas rester dans cette situation ambiguë, dangereuse, qui amenait des enfants à être handicapés jusqu'au CM2, pour ceux qu'on gardait dans l'école, et qui, du jour au lendemain, en allant au collège, n'étaient plus handicapés du tout. Même chose pour ceux qui étaient scolarisés dans notre école et qui, à la rentrée suivante, prenaient l'autobus de recyclage, allaient dans une école ordinaire et, du jour au lendemain, passait du statut d'handicapé, selon les normes de l'éducation nationale, à celui d'élève ordinaire. Bon, c'était quelque chose de tout à fait insatisfaisant. Alors, c'est alors que, en décembre 68, au Centre international de l'enfance, qui a existé jusqu'en 1999, à côté de Longchamp, à Paris, un Anglais est venu expliquer le contenu du rapport Plowden. Plowden, c'était une dame qui a remis au Premier ministre anglais, en 1967, un rapport. Et quand ce monsieur, cet expert anglais, a présenté le rapport, nous étions absolument sidérés. On était présents, on était absolument sidérés, car pour la première fois, on entendait quelqu'un expliquer exactement ce qu'on essayait de dire, nous, depuis un certain nombre d'années. C'est-à-dire qu'il existait des écoles en Angleterre et au Pays de Galles. Il ne parlait pas de l'Écosse. Il existait des écoles qui étaient abandonnées par le service public, dans lesquelles les résultats étaient absolument détestables. École dont tout le monde se moquait, dont on ne pouvait pas parler, et pour lesquels il fallait des programmes tout à fait particuliers, extrêmement difficiles à mettre en œuvre, demandant des moyens importants, et cela pour une période provisoire, pour leur permettre de sortir d'un enchaînement négatif dans lequel elles se trouvaient. Alors là, cette idée d'enchaînement négatif, dit par cet expert anglais, c'était exactement nos paroles. On expliquait que la situation des différentes écoles qu'on avait visitées, des endroits où les difficultés amenaient de nouvelles difficultés, qui amenaient elles-mêmes de nouvelles difficultés. Alors, notamment pour la présence d'enseignants qualifiés, puisque on n'y trouvait que des enseignants sans formation, et cette absence de formation amplifiait les problèmes, ce qui faisait que des enseignants qualifiés n'allaient jamais demander à aller à ces endroits-là, etc. Enfin, on s'en sortait pas. Il fallait rompre cet enchaînement négatif. Alors, en entendant cet expert anglais, on était tout à fait intéressé, et en particulier par la solution qu'il a présentée au nom de Madame Plowden, qui était de ne plus prendre ces enfants dans ces écoles comme des élèves de nature particulière, des élèves extraordinaires, des élèves qu'on n'arrivait pas à scolariser, parce qu'ils étaient eux-mêmes d'une nature différente. Il ne fallait pas prendre les choses comme ça, il fallait les prendre territorialement. Et que le rapport Plowden demandait qu'on repère des zones qui se trouvaient dans ces situations d'enchaînement négatif et que l'on traite ces zones. Et qu'à partir du moment où un élève quittait la zone, ipso facto, il n'appartenait plus à cet ensemble d'élèves qu'il fallait traiter puisqu'il avait quitté la zone dans laquelle il y avait cet enchaînement négatif. Alors ça, c'est quelque chose qui a été toujours très, très difficile à expliquer. Moi, je me suis trouvé avec un certain nombre d'inspecteurs d'académie successifs à qui il était très difficile d'expliquer que nos élèves, à partir du moment où ils n'habitaient plus dans la cité, étaient des élèves normaux. Alors ça, c'est quelque chose qui, conceptuellement, on a beaucoup de mal à faire comprendre comment un élève qui a des problèmes de scolarité en habitant à un endroit, le seul fait qu'il déménage ipso facto ne se trouve plus chargé de ses difficultés. Alors, bien entendu, les difficultés continuent, mais il n'est plus dans cet enchaînement de difficultés qui plombent les résultats de sa scolarité. C'est quelque chose qu'il a toujours été difficile d'expliquer aujourd'hui encore. Voilà. Alors, on a, à partir de là, établi notre revendication de zone d'éducation prioritaire, qui est une traduction littérale de ce qui est écrit dans le rapport Ploudun. C'est pas une invention française. Et il a fallu, alors là, attendre que ça devienne une revendication syndicale en 72, que ça devienne un objectif pédagogique en 1981, que ça devienne une revendication de groupe pédagogique. Ça, il a fallu attendre très, très, très longtemps. Et j'espère qu'un jour, quelqu'un travaillera sur l'acceptation ou l'intégration par les associations et groupes pédagogiques de l'idée d'éducation prioritaire, parce que là, il y a une histoire tout à fait extraordinaire à raconter et peut-être très cruelle d'ailleurs. C'est sans doute pour ça que ça n'a pas encore été écrit. Mais toujours est-il que les associations pédagogiques, hormis l'Association française des enseignants de français et les cahiers pédagogiques ont mis à peu près 10 ans à intégrer l'existence des zones d'éducation prioritaire. Alors, celles-ci ont été instituées en 81. Alain Savary a été nommé définitivement le 27 mai 81 à son poste et le 4 juin, il envoyait un téléx aux inspecteurs d'académie pour leur dire qu'il allait créer des zones d'éducation prioritaires. Ce que 99% des, non seulement des Français, mais même des enseignants ignoraient totalement. Hein. Faut pas croire que c'était quelque chose de connu. Il n'y avait qu'un tout petit nombre de militants qui connaissaient cette affaire. Et petit à petit, ça s'est donc mis en place. Alors, 81, la mise en place, enfin 82, rentrée 82, la mise en place, de manière très militante, si je peux dire, et pas du tout organisée. Ce qui fait qu'en 84, ça avait à peu près complètement disparu, quand Chevènement est arrivé. Bon, mais ça n'a pas été supprimé. Bon, donc ça a continué comme ça vaguement jusqu'en 88, où il y a eu un faux pas fait par Jospin d'abord en octobre 88, et ensuite en 90, enfin la première relance des ZEP qui l'organisait. Grosso modo, l'organisation de l'éducation prioritaire date de 1990. Ensuite, ça a été plus ou moins mis sous le boisseau entre 94 et 97. En 97, il y a eu le rapport Moisan-Simon extrêmement important qui a permis de relancer l'éducation prioritaire avec les assises de Rouen en 98. Et puis, à partir de 99, on a assisté à la déplorable extension du nombre de ZEP, de REP. Alors, pour vous donner un exemple, il y avait 350 ZEP en 82, il y en avait 558 en 90 et il y en avait 1189 en 1999. Bon, donc on était dans tout à fait autre chose. Voilà. Alors ça va m'amener cette. Je m'arrête là. Ça va. Alors il faudrait parler évidemment si, de la période entre 2000 et aujourd'hui, parce que c'est celle que vous connaissez, c'est celle que vous vivez, c'est celle qui est importante pour vous. Mais là, vous la connaissez aussi bien que moi. Il y a eu le tournant de 2006 qui est très très important avec le rapport d'Anne Armand qui, selon mon point de vue, introduisait enfin de façon très très incisive et sérieuse et documentée et la pédagogie dans l'éducation prioritaire et puis la création de postes particuliers dans l'éducation prioritaire. Enfin, c'est pas mon propos ce matin. Alors, je ferai dans les 10 minutes qui me restent deux observations en lien avec l'origine des ZEP. La première, c'est sur le handicap social. Alors, d'abord, l'histoire que je vous ai racontée, même si elle est réelle, elle passe sous silence tout un tas d'évolutions de la société entre le début des années 60 et 1981, au moment où Alain Savary crée les ZEP. Alors, notamment l'arrivée de la recherche pédagogique. Alors, cette recherche existait depuis longtemps, mais massivement, c'est à ce moment-là que la recherche pédagogique arrive. C'est à ce moment-là que le CRESAS, qui était un organisme de l'INRP, a travaillé sur le handicap social pour le dénoncer, pour expliquer pourquoi le handicap social n'existait pas. C'est l'arrivée de la notion d'exclu sur le champ politique. C'est l'arrivée aussi des opérations habitat et vie sociale dans le traitement de l'urbanisme. Enfin, tous ces éléments, je ne les ignore pas. Je ne veux pas prendre l'histoire de l'éducation prioritaire comme si c'était un petit fil n'ayant pas de relation avec le reste. Encore un élément, c'est l'arrivée du chômage, qui a fait que l'absence de résultats scolaires devient dramatique. Bon, autant en 1960, on ne savait pas lire, on avait un emploi le lendemain. Moi, j'ai eu des élèves qui apportaient des feuilles de paye, des élèves qui ne savaient pas lire, qui m'apportaient leurs feuilles de paye à 14 ans et demi, paye qui était plus importante que la mienne. Bon, c'était dans les choses ordinaires. Bon, petit à petit, on s'est aperçu que ces élèves-là étaient ceux qui étaient virés les premiers, évidemment. Et puis, petit à petit, le fait que l'école publique laisse sortir des élèves sans aucun bagage scolaire est devenu, heureusement, quelque chose d'inacceptable et d'inaccepté par la société. Voilà. Alors, est-ce que cette histoire des handicapés sociaux est finie? Je ne le pense pas, parce que les gens comme moi qui sont très sensibilisés à cette question s'aperçoivent qu'à chaque fois qu'on discute de l'éducation nationale, et notamment au moment de la dernière élection présidentielle, on voit réapparaître cette idée d'handicapés sociaux. La droite, alors je sais plus comment elle s'appelle, la droite radicale. La droite radicale, au moment de la campagne présidentielle, remettait ça, alors sans employer les termes handicapés sociaux, remettait ça sur le tapis, à savoir qu'il fallait que la société accepte enfin de reconnaître qu'il y avait des enfants dont on ne pouvait pas espérer qu'ils qu'ils fassent quelque chose à l'école, et donc il fallait très rapidement, à partir de l'entrée en sixième, les mettre dans des filières particulières pour qu'à 14 ans, enfin, ils puissent travailler, et que c'était pour eux la meilleure des choses et tout. Alors, cette et puis on voit ça constamment, quand on regarde bien les débats, on voit constamment que sous-jacent au débat, dans la société française, sous-jacent, rarement, comme au moment de la présidentielle, rarement de façon explicite, sous-jacent, il y a cette idée qu'il y a vraiment des enfants, il faut pas dépenser d'argent pour eux, faut pas s'en inquiéter, faut pas se désoler, c'est comme ça, ça fait partie de la nature des choses, il y en a qui peuvent pas apprendre à l'école, et puis, bon. Alors, à ça, le GFEN répond tout ce capable, et je crois qu'il faut maintenir cette exigence, parce que le handicap social reste une menace conceptuelle et morale tout à fait vivante dans notre société, même si elle est très, heureusement, très minoritaire. Mais c'est quelque chose qui, je crois, peut ressortir à tout bout de champ. Alors, la deuxième observation que je voudrais faire, c'est celle sur ce que j'appellerais l'exception et la règle. L'idée de zone d'éducation prioritaire au démarrage, c'était une idée de situation exceptionnelle. Or, constamment, depuis très longtemps, surtout depuis 1998, l'idée d'exception, de situation exceptionnelle et de réponse exceptionnelle à une situation exceptionnelle a disparu. Et on est maintenant constamment à confondre deux choses, cette idée de situation exceptionnelle d'une part et d'autre part les responsabilités générales du service public d'éducation nationale qui est d'assurer la scolarité la meilleure possible pour tous, et en particulier les enfants des milieux populaires. Voilà, ça c'est la responsabilité normale, ordinaire, continuelle, fondamentale de l'éducation nationale. Or, l'extension, surtout depuis 1999, de l'étendue du nombre d'écoles, de collèges, même de lycées, encore que c'est pas bon, les affaires sont vraiment pas claires au niveau des lycées, d'étendre l'éducation prioritaire fait qu'il y a une confusion complète, et même de responsables, même de hauts responsables politiques, on le voit dans les débats sur la refondation de l'école en ce moment, et sur l'idée d'instaurer une école plus juste, puisque cet adjectif juste fait partie du vocabulaire de notre ministre, on voit constamment l'éducation prioritaire apparaître comme une des branches, si vous voulez, une des branches générales du fonctionnement de l'éducation nationale. L'éducation prioritaire serait la branche éducation des enfants du peuple. Bon, et ça, c'est une confusion qui me semble extrêmement pernicieuse, erronée et qui n'est toujours pas clarifiée aujourd'hui. Alors, je ne mets pas en doute la bonne volonté du ministre actuel, comme des autres. C'est pas du tout ça qui est mon propos, mais je crois qu'il est absolument indispensable qu'on reprenne l'idée d'exception, que l'on voit d'un côté les responsabilités de l'éducation nationale d'une manière générale, et d'un autre côté des situations tout à fait exceptionnelles, rares heureusement, d'écoles ou de collèges qui se trouvent dans des spirales négatives dont ils n'arrivent pas à se sortir. Heureusement, il n'y en a pas de trop. Mais j'invite les collègues qui sont dans des zones ordinaires, si vous voulez, avec un public populaire, je les invite à aller faire une fois leurs courses dans un supermarché aux 4000 à la Courneuve ou à la Grande Borne à Grigny, dans des endroits comme ça. Simplement ça, simplement, c'est même pas aller dans les écoles, c'est simplement aller une fois acheter un paquet de sucre dans un supermarché. Et ils verront ce que c'est que la situation de gens qui sont véritablement dans des situations de misère. Bon, et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas dans la compréhension sociale générale et des enseignants en particulier. Je crois qu'il y a une méconnaissance de la situation d'un tout petit nombre de zones qui est dramatique, parce que on est tout le temps à dire ah ben nous on a plus de mal que les voisins, on a des pourcentages d'enfants dits défavorisés, bon ce qui n'a pas de sens, c'est 40% de la population scolaire, c'est absurde. On a plus d'enfants défavorisés que le voisin. Nous, on en a 30%. Le voisin, il en a 28%. Alors, nous, vous vous rendez compte, on est bien plus malheureux que le voisin. Enfin, c'est des débats qui sont complètement absurdes, de mon point de vue. Il faudrait que l'éducation nationale continue ses réformes, ses transformations, ses adaptations pour faire ce qu'il faut vis-à-vis des enfants de milieux populaires, d'une part, et d'autre part, que l'on considère qu'à certains endroits, des situations exceptionnelles et dont on peut assurer en quelques années le retournement nécessitent des programmes exceptionnels. Je crois que c'est tout à fait important. Alors, en ce moment, il y a des pourparlers qui existent des concertations qui existent entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Ville pour réformer non seulement la carte de l'éducation prioritaire, mais conjointement la carte des zones considérées par la politique de la ville. J'espère qu'on va revenir à quelque chose de sérieux et non plus à ces espèces de comparaisons. Je terminerai là-dessus. En 1982, quand l'éducation nationale a décidé de créer la carte des ZEP, elle a demandé à chaque inspecteur d'académie de chercher dans son département les écoles qui étaient les plus défavorisées, et les collèges les plus défavorisés. Bon. Ça s'est fait, et donc on a eu une carte, toute la France, il y en avait, effectivement, on est toujours plus défavorisé qu'un autre, on peut toujours trouver, on peut même prendre deux écoles très favorisées, et puis chercher entre les deux laquelle est la plus défavorisée, ça n'a pas de sens ce genre de calcul, ça c'était 82, en 82 également, quand on a créé les quartiers à développement social, la carte des DSQ a été faite au niveau national. Et on a cherché où, en France, il y avait des territoires qui étaient vraiment dans des situations très préoccupantes. Résultat, les trois quarts de la France n'étaient pas concernés. Et on a trouvé des quartiers dans le Nord, on en a trouvé dans la région parisienne, dans la région lyonnaise, du côté de Marseille. Puis, exceptionnellement, à Strasbourg, enfin, quelques exceptions comme ça. Et les trois quarts de la France n'étaient pas concernés. Et c'était logique. Bon, l'éducation nationale avait utilisé un système que j'appellerais comparatif. Et le développement social des quartiers avait utilisé un système que j'appellerais superlatif. Le résultat, c'est qu'on a eu une carte qui était beaucoup plus réaliste et sérieuse et limitée avec les quartiers à développement social que la carte des ZEP qui a amené d'ailleurs la disparition de tout un tas de ZEP de 82 qui ont rapidement disparu et qui a amené le département de la Seine-Saint-Denis à n'avoir que 5 petites ZEP. Bon, enfin, ce système de démarrage comparatif était absurde. Mais on est maintenant dans un système où on envahit tout. L'éducation prioritaire, c'est 20 ou 25%, ou même plus que 25% des élèves de France, ce qui est une absurdité. absurdité à la fois logique et politique. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.